simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, c'est les Goligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est enregistrée. Merci, et puis à la... Bonsoir, eh bien j'ai oublié de dire que c'était une parole anarchiste communiste, j'en profite donc pour le dire en dehors du générique. Voilà, alors ce soir on a beaucoup de choses, on va commencer par deux interviews, l'une sur les luttes enregistrées le 1er mai, avec des postiers du 92, qui, avec leur lien avec les Gilets jaunes, les postiers du 92 sont en grève depuis plus de 400 jours. Il y a aussi les urgences, des gens qui bossent dans les hôpitaux. Et puis il y aura après une petite pause musicale, vraiment tout petite, il y aura un extrait de la conférence de presse du collectif des 34, vous savez, c'est les 34 personnes.
34 ou 32?
34.
Ouais, c'est quand, ouais. Je sais plus, c'est 32 ou 34.
De la Salpêtrière.
La Salpêtrière qui ont été arrêtés donc le 1er mai et qui ont fait. Donc on écoute ça, puis après on aura bien d'autres choses.
Dans la manif du 1er mai. C'est l'occasion de te demander où ça en est. Lutte des postiers du 92, plus d'un an de grève, c'est hallucinant. Et du coup, vous vous demandiez qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire entendre, quoi faire. Et là, vendredi dernier, vous avez fait une super action.
Ouais. Là, on est à 400 jours de grève. On a dépassé le 13e mois. Et vendredi dernier, on a envahi le siège national de la Banque Postale, donc le cœur de la bête, quoi. Malgré le dispositif de sécurité qu'ils avaient mis en place, parce qu'on avait quand même un rendez-vous intermédiaire qui était complètement barricadé, une quarantaine de voltigeurs, des compagnies de CRS.
Des
voltigeurs, ils étaient 40 avec leur moto pour nous empêcher de mener l'action. Et on a bifurqué au dernier moment vers un autre endroit qui a permis que l'action se fasse.
Ah,
et
génial.
Un endroit où ils ne nous attendaient pas,
super.
Malgré le fait que les RG nous suivaient, etc., etc. Preuve que quand on est un peu déterminé, c'est possible de contourner les dispositifs de police. L'action, ça s'est super bien passé. On est ressorti de l'action en lien avec les Gilets jaunes, c'est une première dans le cadre de notre conflit.
Et parce que déjà, la semaine d'avant, vous aviez été à l'Assemblée Générale, des Gilets jaunes de l'Île-de-France, et où vous aviez pu parler de votre grève et demander du soutien aux Gilets jaunes. Et donc ça a marché.
Ça a marché. Il n'y a pas eu énormément de Gilets jaunes, mais par contre, en termes de
ouverture aussi, info.
Ouais, enfin, la connexion s'est faite, quoi. Donc on a débattu, on a discuté entre nous le vendredi soir, est-ce qu'on restait jusqu'au samedi matin pour appeler, est-ce que la manif part de là-bas ou pas. Puis finalement on a tranché ensemble et on a décidé qu'il valait mieux recharger les batteries et être capable de refaire encore la même chose la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc ça a été un succès, la boîte l'a vu.
Ouais.
Donc la Poste, ils sont en train de comprendre que la connexion elle est en train de se faire et que il y a des négociations qui sont prévues lundi prochain. Il y a un petit bouger de la part de la direction de la Poste quand
alors,
même.
C'est important ce que tu dis parce que ça veut dire quand même que depuis un an, vous aviez rien comme négociation, rien.
En réalité, il y a des négociations qui ont démarré fin février, début mars, des vraies négociations pour le coup. Mais on était arrivé à un point de rupture où en fait, ce qu'ils nous proposaient, c'est à prendre ou à laisser.
Ouais.
Et donc là, l'action de la semaine dernière, ça a permis de remettre la question de la négociation au centre de la table et de repartir sur... une ouverture alors qu'on était à un niveau où la négociation se terminait. Donc là, en gros, pour résumer la situation, ils nous proposent des choses intéressantes qui correspondent à nos revendications, mais ils adossent ça à des contreparties qu'on ne peut pas accepter. Et la nouveauté par rapport à vendredi dernier, c'est qu'ils seraient prêts à retirer ces contreparties.
C'était quoi les contreparties?
Les contreparties, c'est en gros, on accepte de reporter les réorganisations, mais dans, entre-temps, le fini parti, c'est terminé. Vous savez, nous, les facteurs et les factrices, quand on finit nos tournées, on a la possibilité de rentrer chez nous.
Ah ouais,
et là, ils disaient, ok, d'accord, on reporte les restructurations, mais le fini parti, c'est terminé. Donc là, on a dit hors de question, le fini parti, c'est d'une certaine manière notre 13e mois à nous, puisqu'on n'en a pas. Et donc, on ne transigera pas là-dessus. Donc là, l'ouverture qui sera en train de se faire, ça serait de dire, bon, les contreparties, on les retire, on accepte de reporter les projets et les restructurations sans contrepartie.
Oui, mais regarde, il y a d'autres bureaux de poste partout en France où, isolément, chacun de son côté, on fait des grèves,
ouais,
parfois longues même.
Ouais.
Donc peut-être on aurait pu dire qu'un syndicat, ça peut servir à réunir l'ensemble de ces conflictualités, de ces luttes, pour pouvoir les faire démarrer en même temps et vraiment faire chier la direction.
C'est complètement ça. C'est le schéma qui devrait être le schéma gagnant. Le problème, c'est que, faut dire la vérité, la logique des fédérations et des organisations syndicales, je parle des fédés, hein, je parle pas des petits syndicats départementaux, c'est pas ça. C'est pas de regrouper les luttes, c'est pas de faire en sorte que tout le monde parte au même moment. Et ça serait tellement plus simple. Hein. On a croisé un postier de Blois tout à l'heure qui disait « Chez vous, c'est bien, il y a de la solidarité, chez nous, il n'y en a pas. » Mais en vérité, si on s'y mettait tous, le 13e mois, on l'aurait. Tous nos intérimaires, ils seront en CDI. Mais voilà, ce n'est pas la logique des fédérations, malheureusement. Même la nôtre, il faut dire la vérité, même la nôtre.
La sienne, c'est Sud. Hein.
Et donc, les jaunes, c'est la meilleure réponse. Voilà, parce que...
Ouais, parce que ça passe les clivages.
C'est ça.
Ça passe les frontières.
Et ça dépasse les difficultés qui sont mises en place par ceux qui nous dirigent, et pas, y compris par nos fédérations.
Carrément.
Voilà, ça dépasse tout ça.
Les partis, les assos et les orgas. Et c'est vrai que là, bon, bah voilà, ça dépasse ça. Et du coup, ça prend des formes beaucoup plus spontanées et libres.
Ouais. Ouais. Et puis un dernier truc, nos destins, ils sont liés. Les gilets jaunes et les postiers du 92, de toute façon, maintenant, nos destins sont liés. La Poste nous a clairement dit que tant que le gouvernement ne donnerait pas l'ordre de lâcher, il ne lâcherait pas. Et vu que le gouvernement tient, on va dire, à rien lâcher pour l'instant par rapport aux gilets jaunes, du coup, on est dans la même situation. Mais ce que démontrent les postières et les postiers du 92 et les gélés jaunes, c'est qu'une mobilisation, elle peut s'ancrer sur la durée et qu'elle peut gagner. Elle peut gagner. Voilà, parce que les gélés jaunes, ils n'ont pas du tout dit leur dernier mot. 5 mois après, il n'y a personne qui aurait imaginé qu'ils seraient encore dans la rue. Ils sont encore dans la rue.
Vas-y, je peux te poser une question un peu large.
Bien
tu
sûr.
La trouves où, la déter, pour un an de grève? Continue à le faire. Tu la trouves où?
Enfin, on la trouve où?
Ouais, vous la trouvez où, la déter?
Bah, à la base, quand t'es convaincu que t'as raison de te battre, bah, en fait, tu tiens la barque. Et puis surtout, ça serait complètement lâche de regarder la situation et de se dire, bon, bah voilà, c'est mort, on est résigné, on peut rien faire. Il y a la répression, donc on fait rien. Voilà, on a décidé, on a fait un autre choix. On a fait le choix de se battre. Ça a des conséquences, évidemment. Ça a des conséquences financières pour les familles. Parce que mine de rien, non seulement on a nos pays qui sont à zéro, mais on a aussi on a perdu notre couverture santé, on a perdu le complément familial pour ceux qui ont des gosses. Donc c'est des conséquences dramatiques, hein, pour les familles, parce que là, en gros, il n'y a que le courage qui fait tenir les 150 postières et postiers.
Et la solidarité aussi.
Et il y a la solidarité. Ouais. Donc de toute façon, tant qu'on sera déterminé à défendre nos revendications jusqu'au bout, et tant qu'on aura le soutien qui est le nôtre et qu'on a jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison qu'on lâche. Et puis on est arrivé à un point où de toute façon, après avoir fait 13 mois, même s'il n'y a plus rien à bouffer, même si les loyers de retard ils s'accumulent, de toute façon c'est un combat à mort contre la direction de la Poste, et ce combat on le tiendra jusqu'au bout. Quoi.
Putain, bravo en tous les cas, respect.
Merci. Bonne fête.
Merci.
Bonne fête aux vrais travailleurs.
Ouais.
Voilà, c'est ça le premier.
Et aujourd'hui, c'est la fête internationale des droits des travailleurs.
Voilà.
C'est pas la fête du travail, c'est pas la fête du muguet du maréchal Pétain, c'est la fête internationale des droits des travailleurs, et donc on est là.
Et de la lutte des travailleurs.
Voilà.
tout un tas de gens comme moi par exemple qui sommes précaires ou chômeurs qui seraient prêts à venir se bagarrer, mais pas pour des luttes corporatistes, pour des luttes qui regardent tout le monde, tu vois.
Mais tout est fait justement pour essayer d'émietter les revendications, les luttes, etc.
Vous soutenez cette grève donc?
Bien entendu, sur le principe, même sans connaître les détails, si vous faites grève si longtemps, c'est qu'il y a de bonnes raisons de tenir le coup. Sinon, on laisse tomber. Alors là, ce qui peut peut-être porter un peu d'espoir, c'est est-ce qu'il risque d'y avoir un mouvement unitaire un peu plus qui se déclenche entre gilets jaunes et syndicats, etc.
Merci l'ami. Merci à toi.
Ah, j'avoue.
Mais les gilets jaunes, ça va pas chauffer un peu les gens à la mobilisation dans la boîte?
Bah si, ça a chauffé tout le monde au niveau national, mais la prime Macron, ça a flingué.
Vous avez touché
Ah bah l'effet prime Macron, ça a été mortel. Hein.
Vous avez touché combien?
Bah entre 400 jusqu'à 300, 200 balles.
Ah ouais?
Ah les gars, ils étaient à bloc, chez nous, ils allaient même aux manifs, tu vois.
Ouais.
Et après, prime Macron, 400 balles. Oh, on a gagné, Non, en gros, ils ont eu 400 balles, ils se sont dit, ouais, il y aura encore des trucs qui vont venir, tu vois, et du coup, ils n'ont rien fait. Bah, tu crois que les patrons, s'ils ont lâché ça, ils n'ont pas lâché parce que ils ont lâché, pas juste dans le... On vous lâche, ils savaient que ça allait refroidir tout le monde, et ça refroidit tout le monde, ouais. Dans tous les secteurs. Ça leur a rien coûté, au fond.
Non, mais en plus, ils ont choisi des secteurs où, pour le coup, s'il y a grève, ça pose problème.
Ah non, mais
tous
les grosses boîtes, ils ont éteint l'incendie avec l'argent. Mais l'effet de cette prime-là, je pense qu'on n'a pas eu assez de recul pour analyser ce que ça a fait, en fait.
Alors attends,
j'avoue.
Vu que les gilets jaunes, ils étaient en mode, en pleine montée, tu vois. Genre, ils ont fait reculer les trucs sur l'essence, machin chouette. Là, ils touchent une prime, ils se sont dit, finalement, il n'y a pas besoin d'effort pour que ça vienne encore plus, tu vois.
Ah, ils se sont dit, on va toucher quand même si on se bouge pas, en fait.
Ouais, non, mais la prime, ils l'ont annoncé direct. Mais en termes, ils auraient pu, comme tu dis, espérer plus. À partir du moment où tu crois qu'il y aura d'autres avancées, tu fais rien, tu vois. Je pense que ça a fait cet effet-là. Après, tu vois, par exemple, moi, j'ai touché 400 balles.
Gratuit, presque, quoi.
Bah, moi, j'ai eu honte de la toucher, gros. Tu vois, 400 balles. Non, mais c'est vrai, tu te dis... Oh, attends, ils sont en train de... Je la prends pas, je fais quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Non, mais oui, je comprends.
Parce que
je sais
qu'en fait, ces 400 balles-là, ils ont tout un... C'est un putain de poison qu'ils nous ont donné, en fait.
Bah ouais, je sais, mais bon.
J'ai donné la moitié à des nanas qui faisaient grève.
Bah voilà, c'est grave une bonne manière de... Tu
Et
vois
l'autre moitié, j'ai acheté des vinyles. Je me confesse.
Non, mais c'est important.
Cadre d'équiper la police de LBD, équiper les urgences, équiper les hôpitaux pour pouvoir soigner dignement la population française.
Tout le monde a les plus d'urgence là. Ça pousse des patients. Allez, allez. On va mettre notre colère sur le bitume là. Urgence en colère.
Il y en a marre de la galère. Urgence en colère. Il y en a marre de la galère.
Bonjour madame. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe aux urgences actuellement?
Eh bien, depuis le 18 mars, il y a un mouvement de grève qui a été initié par l'hôpital Saint-Antoine, lié à un problème d'effectifs, d'agression récurrente. Et il se trouve que c'est des choses qui se passent dans tous les services d'urgence. Les urgences sont aujourd'hui saturées. On manque de places, de lits d'aval pour hospitaliser les patients, ce qui génère des situations d'incivilité, d'agressivité, parce que les gens patientent longtemps. Et aujourd'hui, en fait, on demande à pouvoir discuter du statut des urgences, d'une reconnaissance de la spécificité du travail qui est fait par tous les paramédicaux au sein des urgences. Et voilà, aujourd'hui, c'est 17 services d'accueil des urgences de l'APHP qui sont en grève et qui sont rejoints par d'autres hôpitaux de province. Voilà, je crois que ça signifie un peu le ras-le-bol et les mauvaises conditions de prise en charge des patients. Et il faut vraiment que ça cesse. On est à bout, les soignants sont à bout, les usagers sont à bout et on en vient à des situations qui sont inacceptables.
Parce que les urgences, ça a toujours été un petit peu ce problème-là, c'est-à-dire
l'encombrement, des attentes très très longues. Et du coup, tout ça, malgré certaines dispositions, ça ne s'arrange pas.
Oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une réelle augmentation en fait, du flux donc, des usagers et que derrière, il y a une diminution ou une non-augmentation des effectifs. Donc, tout ça reste logique. Hein. Vous augmentez le nombre de passages, vous n'augmentez pas le nombre de personnes pour soigner, ça crée des délais d'attente ultra longs et du coup, des situations d'agressivité, de ras-le-bol de tout le monde, autant pour les soignants que pour les patients. Nous, on les comprend, on essaie de faire au mieux, mais avec le peu de moyens qu'on nous donne. Aujourd'hui, on demande à ce que tout ça soit rediscuté, mis à plat et qu'on fasse au mieux pour accueillir les gens dans de bonnes conditions et pouvoir les prendre en charge et les prendre en soin dans les meilleures conditions et les conditions qui doivent l'être.
Qu'est-ce que vous propose la direction de la PHP ?
Ce que nous leur proposons.
Pour faire avancer un petit peu les choses aussi peut-être.
Nous c'est simple, on demande des effectifs, clairement. On demande une valorisation de la spécificité des urgences à travers effectivement une augmentation de salaire. On demande des lits d'aval, des places d'hospitalisation pour les patients et ça c'est très très important. Et à partir du moment où vous nous donnez des soignants, des lits et qu'on reconnaît notre métier, notre travail à sa juste valeur, peut-être que là on arrivera à faire fonctionner un petit peu mieux. Ça reste des pistes.
Comment se met en place une grève ? Parce que j'ai l'impression que les États jouent un peu sur le fait que dans les hôpitaux, bah, par exemple, comme dans une autre entreprise, on ne peut pas faire une grève en débrayant, bien évidemment. Quelles sont les stratégies que vous avez trouvées pour cette grève ?
Il faut savoir que dans le service public, comme dans tout service public, le droit de grève s'applique avec les représentations syndicales. Y a un mouvement intersyndical qui est avec nous. Et après, c'est tout à chacun, dans chaque hôpital. Il faut savoir qu'on fonctionne déjà en effectif minimum. Donc la quasi-totalité des personnels sont assignés pour prendre leur poste. Et après, c'est des actions un peu comme aujourd'hui, où on essaie de se faire entendre, de se faire voir et de sensibiliser en fait, la population à la problématique de la souffrance des urgences. Voilà.
Comment va se poursuivre le mouvement justement là ? Parce que c'est le 1er mai aujourd'hui, donc la fête des luttes des travailleurs et des travailleuses, rappelons-le.
Le service des urgences a créé un collectif inter-urgence. On se réunit de manière hebdomadaire pour faire le point avec... en termes de stratégie, de communication, logistique et les actions à mettre en place. Des réunions qui sont hebdomadaires. Il y a des réunions de négociation qui ont déjà été faites avec la direction générale de l'APHP, avec des propositions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc on continue, on tente de monter au ministère, mais la ministre Agnès Buzyn ne nous donne clairement pas de nouvelles. Donc on continue et clairement, on veut une réponse de la ministre.
Je vous remercie.
Au 68, à l'Hôtel Dieu, la police venait le lendemain matin pour relever les noms des blessés sur les registres. Et bien aujourd'hui, c'est ce que fait M. Macron. Grâce à l'informatique, c'est du fichage des gilets jaunes qui se présentent aux urgences dans les hôpitaux. C'est un scandale. C'est un état policier qui ne respecte plus les libertés individuelles. Oui, monsieur Macron, nous avons dénoncé le fait que vous avez utilisé un fichier qui, normalement, est réservé pour les attentats. On relève les identités lors des attentats, lors des accidents de train, pour que les proches et les familles puissent retrouver, effectivement, grâce à l'identité, si quelqu'un de proche ou de leur famille a été blessé ou a été tué. Lors d'un mouvement social, comme celui qu'on connaît aujourd'hui, fichier les blessés qui viennent d'une manifestation, c'est proprement scandaleux. Pour nous soignants, c'est antidéontologique et on ne marchera pas avec vous. Nous ne sommes pas des auxiliaires de la police, nous les soignants.
I'm not a provider, but a center divider. présent. On va donc vous lire un texte qui est un texte qui a été rédigé collectivement. Il est donc la parole et la voix de ce collectif. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le collectif des 34 de la pitié. Mais nous ne parlons pas au nom des 34, mais au nom d'une majorité. Nous parlons aujourd'hui au nom du collectif. Nous sommes différents. Ce qui fonde ce collectif, c'est ce que nous avons vécu ensemble. Donc la parole qui est portée là est collective. Nous tenons tout d'abord à remercier les travailleurs et les travailleuses de l'hôpital de la Salpêtrière qui ont fait émerger la vérité. Le collectif aussi des avocats qui nous ont défendus, les médias, les associations, les partis politiques et les syndicats qui n'ont pas relayé les fausses informations et qui ont enquêté à la place des policiers, ainsi que les stricts médics qui prennent soin des manifestants. Nous remercions aussi la CGT de nous prêter cette salle. Cependant, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas affiliés à aucun parti politique et aucun syndicat. Maintenant, nous souhaitons vous faire part des faits précédant notre interpellation. Il est important de rappeler qu'avant même notre arrivée aux abords de l'hôpital de la Pitié, nous étions en train de manifester sur le parcours autorisé d'une manifestation déclarée et autorisée dans le cadre d'une journée familiale dédiée aux travailleuses et aux travailleurs. Nous étions sous un dôme d'une épaisse fumée de gaz lacrymogène et nous avons entendu un grand nombre de détonations en continu. Lorsqu'un cordon de CRS est venu couper le cortège et stopper l'avancée de la partie du cortège dans laquelle nous étions. Le cortège s'est retrouvé encerclé par devant et par derrière, par des CRS. Nous avons subi une pluie de lacrymogènes et de LBD dans un incroyable mouvement de foule. Tout le monde était visé, y compris un grand nombre d'enfants et de personnes fragiles qui subissaient une charge démesurée au regard de leur pacifisme. Seules deux options s'offraient à nous, subir des coups de matraque et un canon à eau, ou alors se réfugier dans un espace aéré derrière une grille ouverte, pour fuir ces ultra-violences policières et le nuage de gaz étouffant et aveuglant. Nous nous sommes réfugiés derrière une grille ouverte pour respirer, car nous étions terrifiés.
Nous sommes tous arrivés sur le parking de l'hôpital pour les mêmes raisons, sans réaliser pour certains que nous pénétrions dans l'enceinte d'un bâtiment public. D'autres avaient été amenés ici par les CRS, présents sur le boulevard de l'hôpital eux-mêmes. Le seul objectif était de fuir les gaz lacrymogènes et les charges policières d'une violence démesurée sur le boulevard de l'hôpital. La grille étant ouverte, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans l'allée sous l'effet de la panique. Certains d'entre nous se sont fait soigner par les street medics, tandis que les infirmiers, infirmières et médecins de l'hôpital nous distribuaient du sérum physiologique pour apaiser les effets des gaz lacrymogènes. Alors que nous nous remettions à peine de nos émotions, les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille, tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leur matraque en nous menaçant. Tout s'est passé très rapidement. Nous avions peur, nous faisions charger des deux côtés, sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. Sous la charge des CRS et des voltigeurs, nous avons couru et sommes montés sur l'escalier. Nous demandions droit d'asile au personnel hospitalier de nous laisser entrer quand nous avions peur de nous faire frapper par les forces de l'ordre. Est-il normal en France d'avoir autant peur de la police? À aucun moment nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous ne sommes jamais entrés dans le bâtiment. Ce n'était ni une attaque, ni une intrusion violente. Nous n'avons pas attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous ne nous sommes pas introduits dans le bâtiment de l'hôpital. Nous n'avons à aucun moment fait preuve de violence. Le but n'était pas d'attaquer un bâtiment public, mais bien de se réfugier sous la panique et la menace des matraques et des LBD. Nous avons de nouveau été témoins de l'ultra-violence policière. Nous pouvions observer, impuissants, ceux qui n'avaient pas réussi à monter sur l'escalier, subir les gaz et une pluie de coups d'une extrême violence à quelques mètres de nous. Les CRS nous ont demandé de descendre, ce que nous avons fait sans discuter, sans résistance et pacifiquement. Ils nous ont rassemblés sur l'herbe, certains allongés, face contre terre. Nous nous sommes fait fouiller, un par un, certaines femmes ayant été fouillées par des hommes. Malgré nos plaintes et remarques quant à la légalité de ces actes, certains étaient menottés, d'autres non, sans aucune raison, puisqu'il n'y avait aucune violence de notre part. Nos pièces d'identité ont été ramassées sans que nous sachions ce qui nous était reproché. Nous nous sommes levés et avons attendu, dans l'attente, de savoir ce qui allait nous arriver. Nous ne comprenions pas la situation. À un moment, un représentant des forces de l'ordre a donné l'ordre à ses collègues de nous encager afin de nous escorter au bus d'interpellation. Nous sommes montés dans le bus, encore une fois sans savoir ce qui nous était reproché. Arrivés au dépôt du quai des Orfèvres, nous sommes descendus un par un du bus et nos feuilles d'interpellation nous ont été distribuées. Les motifs différaient selon les feuilles. Intrusion, couplée pour certains à rassemblement en vue de violence ou dégradation. Tout le monde était choqué. Nous ne comprenions pas d'où sortaient ces accusations.
Certains d'entre nous ont subi des violences dès l'arrivée au dépôt. Fouilles abusives en public et hors du dépôt, port de menottes injustifiées et injustifiables, dégradation des biens personnels. D'autres ont subi des violences psychologiques en leur faisant croire qu'ils sortiraient une fois qu'ils auraient parlé à l'officier de police judiciaire, que cela ne prendrait que quelques heures. Nous sommes restés entre 28 et 30 heures en garde à vue. Nous avons tous vécu des expériences différentes, entre difficiles et très difficiles, mais ce qu'il en ressort est une pression morale violente et inadmissible, notamment envers les femmes. Trois femmes ont été isolées dans une cellule de dégrisement d'environ 8 mètres carrés avec caméra pendant 30 heures. D'autres étaient en cellule partagée mais ne disposaient que de 2 matelas, 4, ou n'ont pas pu manger de repas avant le lendemain 13 heures. Certains ont eu leurs lunettes de vue retenues lors de leur fouille et ont donc signé des papiers sans savoir à quoi ils s'engageaient. Ils ont dormi dans des cellules surchauffées ou glaciales, à même le sol. Ils sont restés 30 heures avec ou sans lumière. Ils n'ont pas eu accès à leurs médicaments pendant la durée entière de la garde à vue, ont demandé à un médecin qu'ils n'ont jamais vu. Pour ce qui concerne la violence psychologique exercée par les forces de l'ordre, elle a été ressentie par tous les membres du collectif. Il s'agissait de nous faire croire tout et n'importe quoi quant à l'issue de notre garde à vue. Entre une sortie au bout de 2 heures et une déférence au dépôt pour passer au tribunal de grande instance, qui peut se suivre d'une comparution immédiate, nous ne savions plus quoi et qui croire. En pleine nuit, les forces de l'ordre venaient nous réveiller en frappant nos portes de cellules avec des matraques et en passant les clés sur les grilles pour faire le plus de bruit possible et nous empêcher de dormir. Dans la nuit, de nouveaux chefs d'accusation sont apparus sur les feuilles d'interpellation de certains d'entre nous, à savoir bande armée et utilisation d'objets explosifs. Tout cela n'avait aucun sens. Nous n'avons pas tous pu voir nos avocats avant de réaliser nos dépositions. Certains avocats ont demandé à voir leurs clients du mercredi soir au jeudi matin, mais les forces de l'ordre refusaient en expliquant qu'ils ne savaient pas où nous nous trouvions. Certains d'entre nous ont été appelés en pleine nuit pour leur déposition, au moment où nous étions faibles psychologiquement et moralement. Les officiers de police judiciaire nous ont dit que nos avocats avaient quitté le dépôt du quai des Orfèvres le mercredi soir sans chercher à nous voir, alors que les avocats nous ont confirmé qu'ils n'avaient pas été autorisés à nous voir. Nous étions sous une pression psychologique intense, sans repère. Pour certains, les questions étaient posées de façon à nous inculper, tandis que d'autres se faisaient amadouer pour témoigner. Certains se sont fait insulter et humilier lors de ces dépositions, étant menacés d'être renouvelés de garde à vue pour 24 heures et de finir au dépôt le vendredi soir. Le dépôt était présenté comme un endroit n'abritant que des criminels, susceptibles de nous violer pour certaines. Tout était mis en place pour nous forcer à témoigner malgré notre droit de garder le silence et notre innocence.
Lors de notre arrivée au palais de justice, nous avons été informés de notre droit d'appeler un proche durant notre garde à vue. Bien qu'ils ont demandé à être présents pendant cet appel, certains n'ont pas été prévenus et n'ont pas pu parler à leurs proches, malgré leur demande. D'autres n'ont simplement pas eu leurs proches contactés suite à leur garde à vue. C'est inadmissible vu la soudaineté et l'incompréhension des motifs de nos interpellations pour nos proches. D'autant plus que la couverture médiatique à ce moment-là était intense et a provoqué un traumatisme également pour nos proches. À partir du moment où certains de nos avocats nous ont informés de la portée médiatique de cette affaire, notre état psychologique s'est dégradé. Nous avons compris que nous allions être prolongés et victimes d'un engrenage politique qui nous dépassait et dont nous n'étions pas responsables. Les forces de l'ordre ont joué de cet avantage pour nous soumettre à leur volonté, c'est-à-dire refaire passer en audience, fouiller nos téléphones et prolonger notre garde à vue pour les besoins de l'enquête. À partir d'environ 16 heures, les forces de l'ordre sont venues nous notifier que notre garde à vue était prolongée. Nos pensions passaient une nuit de plus dans ce lieu qui nous privait de toute liberté, de façon arbitraire. La plupart des femmes du collectif ont été mises au courant qu'elles seraient libérées rapidement puisque les vidéos de surveillance de l'hôpital montraient qu'aucune femme n'avait commis de dégradation. Néanmoins, tout le monde est sorti dans les 2 heures qui ont suivi. À partir de 20 h jeudi soir, les premiers d'entre nous ont été libérés. Nous étions sous le choc. Au vu du nombre de mensonges et de non-dits dont nous avions été victimes au cours de ces 30 heures, il était difficile de croire que nous allions être libérés. Et même lorsque nous récupérions nos affaires, les forces de l'ordre nous pressaient. La violence psychologique n'était pas terminée. Nous sommes sortis, enfin, après 30 heures d'incompréhension, d'injustice et de peur. Certains n'ont pas encore récupéré toutes leurs affaires. La manifestation déclarée et autorisée s'est transformée en cauchemar traumatisant pour tous les interpellés.
Est-ce digne d'une démocratie du pays des droits de l'homme et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Nous tenons à remercier du fond du cœur nos familles et nos amis, à la fois ceux qui nous attendaient devant le dépôt du quai des Orfèvres et ceux qui n'ont pas pu être présents de nous avoir aidés, cru en notre innocence et soutenus dans ce calvaire. Ces événements sont incompréhensibles et inadmissibles. Par ce communiqué, nous souhaitons dénoncer les abus de pouvoir dont nous avons été les victimes, ainsi que les violences policières qui sévissent en France. Nous apportons notre soutien inconditionnel à l'ensemble de nos camarades interpellés ce 1er mai, à tous les manifestants, à l'ensemble du peuple français, en particulier dans les banlieues qui subit les frais de cette politique répressive depuis des années. Nous sommes également conscients que partout, en France, la répression policière est intense et nous apportons notre soutien à toutes les victimes de l'ultra-violence policière. Nous sommes encore sous enquête préliminaire, nous ne sommes pas libres d'un point de vue juridique. Nous prendrons le temps d'établir notre stratégie avec nos avocats. Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. Organize the wealth into a socialist economy, a way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. Shout out to black male, live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? No more bondage, no more political monsters, no more secret space launches. Government departments started it in the projects, material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that, corporations hiring blacks, denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathe in it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones, rolling up my sleeves and shit. It's C-Lo for push-ups now, many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution.
Your average black male, live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state.
Moi, je vais revenir par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur deux faits. L'histoire de la Salpêtrière, moi j'étais devant les médias, hein, je n'étais pas dans la manifestation. Et effectivement, il y a eu une manipulation incroyable au niveau médiatique, des grands médias, qui ont dit qu'il y avait effectivement des manifestants qui s'attaquaient à un hôpital. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Il y avait eu la même chose, rappelez-vous, au moment de la lutte contre la loi travail, où il y avait eu exactement la même chose, mais là c'est encore, je crois, encore plus flagrant, que vraiment c'était n'importe quoi de faire croire aux gens que des gens puissent s'attaquer à la Salpêtrière, alors qu'ils étaient complètement gazés, ils recherchaient finalement, comme ils l'ont dit d'ailleurs dans leur conférence de presse, ils recherchaient l'asile. Alors heureusement que au niveau des gens qui bossent à la Salpêtrière, qui ont pu témoigner, on a vu notre premier ministre reculer rapidement. Il a compris que ça marchait pas, la manipulation. Ensuite, les médias, c'est pareil. Les grands médias, je parle, les autres, évidemment, sont bien doutés que là-dessous, il y avait quand même Anguille Souroche.
Oui, puis donc par rapport à ce qu'ils disent, théoriquement, ils étaient partis pour rester en garde à vue encore plus longtemps. Et donc, dès que ça s'est su que c'était faux, ils ont été relâchés. Même s'ils sont toujours, ils ont toujours des poursuites contre eux, mais ils ont été relâchés immédiatement.
Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont constitué un collectif de ces 34 pour effectivement se battre collectivement par rapport à ce qui leur est arrivé. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais un peu revenir, c'était sur le fichage. des gilets jaunes. Enfin, c'est le chiffrage des gilets jaunes, mais demain, ça sera certainement pour d'autres manifestants. Alors, comment que ça se passe exactement? Ça a été révélé par le Canard Enchaîné, le 17 avril d'ailleurs, qui a fait état d'un recensement nominatif par les hôpitaux parisiens des personnes blessées. Alors, comment que ça se passe quand vous êtes blessé? Ben, vous êtes blessé, vous vous retrouvez donc dans un hôpital et on vous fait une entrée administrative avec donc des tas de questions sur où vous habitez, etc. Ensuite, votre nom, bien évidemment, c'est nominatif. Ensuite, il y a une case qui est commentaire et qui est remplie par quelqu'un de l'agence régionale de santé ou la personne qui vous fait, ou l'administratif qui est là, qui va décrire simplement de quoi vous souffrez. C'est-à-dire si vous avez reçu quelque chose qui a endommagé votre œil, votre jambe, etc. Si c'est une... Alors, en lisant ça, n'importe qui peut savoir si vous étiez en manifestation ou pas.
Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qu'il y a dans ce fichier-là, qui est un truc tout à fait normal,
administratif,
a été remis dans le fichier qui est utilisé en cas d'attentat ou en cas de déraillement de train ou autre truc, ou pour recenser, pour savoir où sont les personnes.
Oui, qui... alors c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que ce fichier civique en question, est chaque personne a un nom, a un numéro qui est attribué. Dans un autre fichier qui s'appelle Sinus, qui existe depuis 2009 d'ailleurs, qui a été généralisé en 2013. Et ce fichier Sinus, c'est pas le SAMU qui peut l'ouvrir, c'est le ministère de l'Intérieur qui peut ouvrir les fiches en question. Et grâce à ce numéro, et c'est ainsi que le ministère de l'Intérieur, quoi qu'en dise la ministre aujourd'hui, quoi qu'en disent un certain nombre de gens, en particulier au niveau des responsables de la PHP, c'est n'importe de qui du ministère de l'Intérieur peut savoir si la personne était en manif ou pas, si elle a reçu, qu'est-ce qu'elle a reçu, etc. Bon, là, je crois que... Alors là aussi, c'est pareil, il semble que l'État soit obligé de reculer à cause de la mobilisation. Il y a eu le Canard Enchaîné, mais après, ça a fait tache d'huile. Il y a eu surtout des soignants. Il y en a un dans la manif qui intervient là-dessus. Il y a eu des soignants, il y a eu des urgentistes surtout, qui ont dit « pas ça chez nous, on n'est pas des flics, on ne travaille pas avec la police ». Et puis il y a eu surtout les gilets jaunes, dont certains ont porté plainte. Donc l'affaire va suivre son cours, on entendra encore causer. Voilà. Alors maintenant, dernier point peut-être sur les gilets jaunes et sur ce qui est autour des gilets jaunes. C'est la fameuse arme LBD. Eh bien, le LBD est une arme de guerre, effectivement. Là aussi, le Canard Enchaîné avait révélé fin décembre, que le ministère de l'Intérieur avait passé commande à la veille de Noël de 1280 nouveaux lanceurs monocoques pour la gendarmerie, la plupart, plus 270 lanceurs multicoups à 4 coups et 180 à 6 coups. Pour les policiers. Alors, le Canard Enchaîné finalement a révélé que le ministère de l'Intérieur, donc en passant commande, avait eu la surprise de s'apercevoir que ces balles de défense, les LBD, étaient classées dans la réglementation internationale en armes de guerre, c'est-à-dire la catégorie A2. Alors, effectivement, c'est du matériel de guerre. Le fabricant suisse du LBD, lui, quand on lui commande, le ministère de l'Intérieur, quand on lui commande ce type d'arme, eh bien, il demande à l'État en question, la France ici, qu'il y ait l'accord aussi du ministère de la Défense, puisque c'est une arme de guerre. Voilà où on en est dans cette situation de répression, où effectivement, dans les manifestations, eh bien, on a en face de nous une arme de guerre. On va peut-être passer à autre chose avant de... Vous allez peut-être nous parler un petit peu des gilets jaunes.
Oui, je vais juste vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à Reims. Au rond-point, vous savez qu'il y a plusieurs ronds-points à Reims qui étaient occupés depuis 6 mois. les uns après les autres ont été détruits. L'avant-dernier qui avait été brûlé par des gens clandestinement, on ne sait pas qui, c'était à Vitry-les-Reims. Et cette fois-ci, c'était au rond-point de Tillois. Ça s'est passé la semaine dernière, en début de semaine. Apparemment, il y a une personne qui venait juste de partir du rond-point, du rassemblement, de la soirée, et elle est arrivée, c'était en flamme, quoi. Et en fait, comme par hasard, à ce moment-là, elle a aperçu sur le parking d'IKEA, parce que ça se trouve à proximité du super IKEA, elle a vu une voiture de BAC. C'est étrange, hein? C'est juste une coïncidence.
Ouais, c'est
simplement, signalons que la BAC n'a rien à faire sur ce territoire-là. Ce n'est pas son territoire. C'est la territorialité de la gendarmerie dans ce secteur. Enfin bref, ça c'est anecdotique. Mais en tout cas, les gilets jaunes de Tillois ne désarment pas pour autant. Ils ont entrepris de reconstruire de rechef les abris en bois des assemblages de fortune. Ma foi, qui vont très bien, puisque pendant le week-end, il y a eu plusieurs dizaines, c'est allé pas loin d'une centaine de personnes, il y a une soixantaine de personnes qui se sont rassemblées qui ont filtré, puisqu'en fait, ils font pas de blocage, il n'y a pas de blocage, mais il y a une présence permanente le long de ce rond-point. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'automobilistes qui passaient, klaxonnaient, apportaient un soutien significatif, comme on peut dire, comme au début du mouvement. Donc ça, cette exaction, d'où qu'elle vienne, hein, qu'elle soit policière ou qu'elle soit de Nervi, eh bien, elle a redonné de la gouache aux gens qui sont de nouveau mobilisés et qui appellent évidemment pour ce samedi prochain, c'est le 18, hein ?
18, ouais.
Le 18 mai, ce samedi prochain à Reims, à la mobilisation qui, rappelons, est une mobilisation d'ampleur au minimum régionale, voire nationale.
D'accord.
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire a priori. On reviendra sans doute sur l'histoire de ce mouvement particulier à Tillois, puisqu'il y a une forte détermination. Il y a des composantes très très diverses. Il y a pas mal de travailleurs précaires, mais ça, on en avait déjà parlé avec Jean-Mi il y a quelques mois. Non, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Puis il y a de la déterre, comme on dit. Il y a un groupe, ah oui, j'allais oublier de dire. Il y a quand même un groupe qui est venu du sud de la Marne et qui a occupé le péage de Courcy pendant une bonne heure et demie, et laissant passer les gens au péage. Et bon, voilà, ça fonctionne, quoi. Il y a de la détermination encore, faut le dire.
On va faire une pause musicale maintenant.
Alors, juste pour vous dire que le titre de ce morceau du GAM, ça s'appelle « Au courage » au pluriel.
Je crois que tu vas nous parler d'un bouquin maintenant.
Oui, je vais vous parler d'un bouquin. Alors, je ne vais pas vous faire un long commentaire parce que je ne l'ai pas encore terminé. Il s'agit de... Le titre, c'est « Cœur de boxeur ». Donc, « Cœur de boxeur », c'est un ouvrage, un essai qui a été écrit par Antoine Payon, qui est un journaliste à La Croix. Une fois n'est pas coutume. Donc, « Cœur de boxeur », vous avez entendu parler sans doute de cette histoire le 5 janvier 2019, lors de l'acte 8. Lors de l'acte 8 des Gilets jaunes, où il y a quelqu'un qui s'est avancé sur un pont et qui a fait reculer les CRS. Avec ses seuls poings. Voilà, c'est deux tailleurs, hein, celui qui a été nommé par les ministres et par Macron le boxeur gitan, hein, qui a d'ailleurs eu des propos éminemment racistes à son égard, en parlant de sa méthode de défense et ses arguments qu'il évoquait. Donc cet ouvrage, il décrypte un peu les conditions dans lesquelles Christophe de Tailleur s'est mobilisé parce qu'il avait vu depuis des semaines, il participait au mouvement des Gilets jaunes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et il y allait régulièrement avec son épouse. Et là, ce jour-là, il décrit... il avait vu des gens se faire gazer, il avait vu des gens se faire matraquer... Jusqu'à un moment, et il passait, en fait, il passait son chemin, et jusqu'à ce qu'il se retrouve sur ce fameux pont, où là, il y avait une personne, une femme en manteau rouge, qui se faisait de nouveau tabasser abondamment, qui d'ailleurs a témoigné pour lui en disant qu'elle sentait qu'elle allait se faire elle était en train de se faire massacrer, elle se sentait mourir. Et elle dit clairement qu'il lui a en quelque sorte sauvé la vie parce que, ayant des problèmes pulmonaires, elle se voyait partir, quoi. Elle était extrêmement mal en point. Et donc, en fait, Christophe de Tailleur a décidé, c'est parti spontanément, il s'en est pris instinctivement à ces gendarmes. Et d'ailleurs, on a entendu, alors tout à l'heure tu parlais du langage médiatique, mais aussi du langage des ministres ou du langage des ministres d'État et tout ça, hein, que ce soit Macron et du président. On a eu des propos de Castaner qui disaient que il y avait des gens qui voulaient délibérément tuer, quoi.
Ouais, ouais.
En fait, Antoine Payon, il décrypte bien son intervention à Christophe de Tailleur. En fait, il arrive de manière très mesurée, il contrôle ses coups, il assène effectivement quelques bons coups. Où il bouscule sérieusement casque et bouclier. À un moment donné, il y a effectivement, alors je ne sais pas si c'est des CRS ou des gardes mobiles, peu importe, qui est par terre, et il voit, il le décrit, il voit qu'il est en difficulté, et à ce moment-là, il arrête. Il ne va pas s'acharner sur lui au sol ou quoi que ce soit, il arrête les coups. Et donc après, il y a eu un véritable... Et il quitte la manifestation, effectivement. Et là, il est identifié. Ça, tout le monde le sait. Hein, vous le savez certainement.
Il fallait qu'on voyait. On voyait son visage. Hein, il n'était
Ah ben, il n'était pas cagoulé. Il n'était pas casqué. Il était à main nue. Enfin, à main nue, avec des gants. Alors d'ailleurs, à propos des gants, on a signalé... Enfin, les médias, encore une fois, ont signalé qu'il avait des gants plombés. Et moi, je l'ai entendu autour de moi. Des gens me disaient, oui, mais il avait des gants plombés. Non, il n'avait pas de gants plombés du tout. Parce qu'en fait... la police a perquisitionné son domicile. Évidemment, ils avaient pris le large. Ils n'allaient pas se laisser cueillir au domicile. Et en fait, ils ont retrouvé les gants. Mais les gants étaient rigoureusement vides. Et en fait, Christophe de Tailleur a décidé de faire un petit film vidéo qu'il a envoyé sur Facebook pour décrire ses motivations. Et après, il a décidé d'aller se rendre lui-même, à la police pour témoigner, ouais. etc. Et en fait, On connaît le régime, hein, c'est comparution immédiate et puis audience. Donc il y avait deux avocats, qui le défendaient. On a eu une justice complètement politicienne, hein, qui est intervenue et qui a refusé parce qu'en fait, ses avocats ont mis en évidence le fait qu'il pouvait très bien être représenté. Enfin, comment, c'est pas ça l'expression. C'est il pouvait avoir les garanties de représentation. Donc il n'y avait aucun lieu à ce qu'il soit mis en détention. Et il est quand même été en détention. Donc là, il est en détention, mais en semi-liberté. Il dort la nuit en prison. Voilà, jusqu'à l'appel,
jusqu'à son procès qui est fixé.
Je l'ai pas en tête, j'ai pas retenu. Mais je reviendrai là-dessus dans le détail. Là, je prendrai le temps de saisir. Mais en tout cas, cette personne est devenue vraiment un symbole pour l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai sous les yeux là quelqu'un qui expliquait pourquoi sur leur t-shirt ils avaient un symbole qui faisait référence à Spartacus. Donc je reviendrai là-dessus. Spartacus, vous connaissez l'histoire, un ancien esclave et gladiateur d'origine de Thrace, mena des dizaines de milliers de révoltés, esclaves, gladiateurs, mais aussi pasteurs et paysans, lors de la troisième guerre servile en Italie, de 73 à 71. Voilà. Et donc je reviendrai là-dessus dans le détail une autre fois.
Ouais,
parce que là, on va terminer tranquillement.
Et là aussi, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce boxeur, il y a quand même eu, au niveau de la solidarité, l'histoire de la cagnotte.
Ah oui.
Hein, ce qui est important quand même.
Oui, il y a eu 20 000 personnes qui ont envoyé de l'argent. Et d'ailleurs, cette cagnotte...
1 euro, 5 euros, etc. Et d'ailleurs, la cagnotte a été bloquée. Elle a tellement fait peur à l'établissement, on peut dire. Hein.
Ouais.
Elle a tellement fait peur que d'un côté, les flics ont lancé une deuxième cagnotte pour dire, nous aussi, on en fait une et on sera bien supérieur à vous. Et puis, de l'autre côté, l'État a tout fait pour fermer cette cagnotte. Et d'ailleurs, ouais, je crois qu'il y a encore un procès qui va y avoir pour récupérer cet argent de cette cagnotte. Ce n'est pas fait.
Ouais, j'espère.
C'est pas
même,
fait.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est par rapport aux violences policières, par rapport à la police en général, le fait que ça se passe comme ça, c'est assez connu maintenant. Il y a quand même de plus en plus de gens qui, de gilets jaunes, manifestants, qui portent plainte. Il va y avoir des tas de suites, des tas de procès. Ça ne donnera pas forcément grand-chose, mais bon, ça existe. N'empêche qu'il y a un truc qui n'est pas trop mis en exergue aujourd'hui, et pas assez, c'est l'histoire de la justice. Comment la justice est rendue par rapport aux gilets jaunes en général, et par rapport finalement, comme ça... Ça met en exergue un petit peu ce que c'est que notre justice. C'est vraiment une justice de classe. Et là-dessus, il y a des trucs incroyables qui se sont passés encore cette semaine à Boulogne-sur-Mer, où effectivement, tu t'aperçois qu'il y a des juges qui peuvent se lâcher complètement dans des histoires, pas forcément de manifestants d'ailleurs. C'était une fille qui avait eu des problèmes d'atteinte et d'abus sexuels, et la justice, c'est le procureur, non, je crois que c'était le président, s'est permis de demander à la jeune fille, c'était une jeune fille je crois, comment elle est habillée. Vous voyez le lien, comment elle est habillée. Bon, donc c'est, on est vraiment dans une situation où la justice se lâche complètement. Elle se lâche d'habitude, d'ailleurs, hein, on l'a déjà dit ici. Mais il faut en prendre conscience qu'on a vraiment une justice de classe en face de nous.
Oui, c'est un appareil. Et donc, il faut rappeler que le samedi 18, le 27e acte des Gilets jaunes se tiendra à Reims. Peut-être pas seulement à Reims, mais en tout cas, dans la partie nord-est de la France, ce sera à Reims. Et qu'il est sous le signe de cette justice de classe et de ces exactions policières, judiciaires, tous azimuts, qui a fait des centaines de blessés, des milliers de gardes à vue, plus de 2000 procès, plus de 1500 comparutions immédiates, hein, et dont 40% ont donné lieu à des prisons fermes.
Ferme, oui.
et plus de 400 mandats de dépôt. Et ça, ça date, le texte, il date du 4 avril. Donc depuis, on en est encore plus loin, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est, ça sera sous le une des revendications qui réclame l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement, qui se tiendra samedi prochain à Reims.
Dernier point, avant qu'on se quitte, j'ai oublié tout à l'heure par rapport au LBD, qu'il y a un historien qui a rappelé que le LBD est en fait le successeur d'une autre arme, du bâton round. C'est un lanceur de balles en caoutchouc ou en plastique qui a été introduit en juillet 1970 au sein de l'armée britannique avant d'être systématiquement utilisé lors du conflit en Irlande du Nord et qui avait été pensé comme le moyen de frapper les manifestants, de les matraquer à distance. Il faut savoir que cette arme, entre 1970 et 2005, l'armée a recensé 125 000 tirs, entraînant 17 morts, dont 8 enfants, et oui, en Irlande du Nord. Et c'était l'ancêtre de l'LBD.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Grégores chaque semaine sur les Coligariques à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment en Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Chat Noir 51 nos émissions. Merci et à bientôt.